Radio Grand Ciel présente Par ici les sorties, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Jean-François Suzanne, président des Amis du Perche de l'Orne, qui va nous présenter les ateliers du bâti, une manifestation qui aura lieu le dimanche 1er octobre au manoir de Courboyer. Il est accompagné d'Elisabeth Gauthier-Desvaux, qui est conservateur général du patrimoine et vice-présidente des Amis du Perche de l'Orne. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Christiane Blain.
Bonjour cher président.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, cher président, vous pourriez nous expliquer pourquoi aujourd'hui on se mobilise pour le patrimoine.
C'est un phénomène qui est ancien depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est devenu amoureux du Perche, de son patrimoine, et on fait tout pour essayer de le sauvegarder. Je vais vous citer quelques exemples.
Oui.
Tout d'abord, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des érudits locaux qui se sont mobilisés pour sauvegarder le Perche. Notamment, je pense à Georges Massiot, qui est le président fondateur des Amis du Perche, les amis en fait du vieux Nogent. En s'inquiétant ou en se mobilisant pour sauver à la fois le donjon de Nogent, on pensait utiliser la pierre pour reconstruire la ville, ou encore avec un jeune étudiant à l'époque, un jeune lycéen, qui s'appelle Philippe Siguret, pour sauvegarder l'abbaye de Saint-Denis.
Voilà.
Mais
il
c'est aussi
partie du lycée Rémy-Bello.
Tout à fait. Et d'ailleurs, prochainement, on va éditer un cahier percheron sur l'abbaye de Saint-Denis, où il relate en fait cette histoire de l'abbaye.
C'est une très bonne idée, parce que tous les Nogentais vont avoir envie de se procurer ce petit livre.
Tout à fait. Également, je pense aux propriétaires qui se sont emparés de l'histoire des manoirs. Mmh. Je pense à Vaujour avec M.R. Verrier. Je pense à Lavaux avec le professeur Couvlaire. Je pense à l'Angenardière avec la famille Gouillon. Mmh. Également, il y a eu des créations d'associations de sauvegarde, soit à l'échelle nationale. Et je crois que l'une des plus anciennes associations qui a été fondée en 1921 et reconnue d'utilité publique en 1925, c'est la sauvegarde de l'art français. Plus récemment, la Fondation du patrimoine, créée en 1996.
Oui.
Il y a aussi des associations à l'échelle régionale. Avec modestie, il y a les Amis du Perche,
bien
mais
sûr.
D'autres.
Oui, on peut le dire, vous êtes très nombreux, puisque les Amis du Perche recouvrent trois associations.
Tout à fait.
Alors peut-être vous pouvez les redire pour notre...
Les Amis du Perche d'Eure-et-Loire,
oui.
Actuellement présidé par Michel Crec. Les Amis du Perche du Loir-et-Cher et de la Sarthe, présidé par Jean de Tapie. Les Amis du Perche de l'Orne, présidé donc par moi-même.
Oui.
Avec une fédération des Amis du Perche, présidée par Alain Morin. Et ouais. Donc nous sommes autour de 900-930 adhérents
aujourd'hui. Voilà, ça je crois qu'il faut le dire, presque 1000 adhérents pour cette belle association, les Amis du Perche, de l'Orne, de l'Eure-et-Loire, de la Sarthe et du Loir-et-Cher.
Tout à fait.
C'est quand même très important puisque maintenant le Loir-et-Cher et la Sarthe font partie du Perche, on
Tout
peut dire.
Tout à fait. Et puis il y a une troisième échelle d'associations qui œuvrent pour le patrimoine, ce sont les associations locales de sauvegarde du patrimoine. L'année dernière, je crois que c'est l'une des plus anciennes associations. On avait été ensemble à Villevillon, et pour moi, c'est peut-être l'une des plus anciennes associations de sauvegarde du patrimoine dans le Perche Aurélien, présidée par Jean Le Teinturier. Mmh. Et dans l'Orne, peut-être l'une des plus anciennes, c'est peut-être celle de Comblot, présidée par Béatrice de Villene, et peut-être encore d'autres.
Oui.
Je pense aussi avec l'association patrimoine de Saint-Marc, qui localement s'occupe du patrimoine bâti, soit religieux, soit civil, mais aussi le patrimoine naturel qu'on doit prendre en compte aujourd'hui.
Je trouve que c'est bien que vous évoquiez cela parce que beaucoup de gens se donnent beaucoup de mal dans des petites localités pour faire renaître ou leur église ou leur beau monument. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Tout à fait. Et c'est l'enjeu, en fait, car c'est le but de cette manifestation du 1er octobre prochain, de réunir toutes ces associations qui seront présentes pour œuvrer au profit du patrimoine.
Exposition qui aura lieu justement au manoir de Courboyer.
Oui, alors il y aura, puisqu'en fait c'est organisé par le Parc Naturel Régional du Perche, qui nous a en fait contacté, nous Amis du Perche, pour travailler en partenariat. Un travail qui a été fait donc par Elisabeth Gauthier-Desvaux, qui est présente avec nous aujourd'hui.
Oui.
Vanessa Hu, responsable du pôle patrimoine, culture, maison du parc. Et moi-même, sous la direction, on va dire, de Jean-Michel Bouvier, président du parc naturel, et Alain Morin, président de la Fédération des Amis du Perche.
Très bien. Alors, quels sont les vrais leviers pour protéger le manoir ?
Ah, pour protéger, j'allais dire aussi, même le patrimoine en,
oui.
en général. Bien, les outils historiques liés à la prise de conscience de l'intérêt du patrimoine, et alors là, il faudrait plonger les racines même dès le 19e siècle, effectivement,
oui, hein,
là, avec les inspecteurs des monuments historiques, mais là,
oui,
c'est
mais
toute
ça,
une
c'est,
histoire.
C'est très intéressant
absolument,
de le dire, parce que
absolument.
C'est grâce
oui.
à eux, quand même.
Voilà, et je pense à Mérimée, à Prosper Mérimée, qui est
pas
un des grands
pas
pionniers.
Citer.
Eh bien, naturellement, les premiers leviers, je dirais les premières armes, et en disant armes, je cerne bien, je souligne bien le caractère, malgré tout, je ne dirais pas offensif, mais
directif,
mais forcément directif, ce sont des armes juridiques, telles que la protection, au premier rang desquelles le classement et plus tard l'inscription à l'inventaire des monuments historiques.
Alors, peut-être évoquer quelques instants le classement.
Oui, le classement, toute mesure de classement, mais là aussi, il faudrait discourir longuement sur
oui,
ce,
mais quand même
sur
pour
ces
que
méthodologies.
Nos amis se rendent...
Oui, il s'agit effectivement sur l'étude d'un dossier très argumenté,
voilà.
référencé, documenté notamment par une étude historique et architecturale et
très complète.
Voilà, très complète, de proposer. À l'État, au ministère de la Culture et de la Communication en l'occurrence, donc une mesure de protection. Et à ce moment-là, des agents spécialisés viennent naturellement sur place et une commission régionale présidée par le préfet de région et en fait confiée à la directive du directeur régional des affaires culturelles,
oui.
prend, émet une proposition qui ensuite remonte au niveau national
Bien
au
sûr.
Sein de la Commission oui. supérieure des monuments historiques. Mais donc des mesures plus légères, mais non moins importantes, sont prises avec une inscription à l'inventaire des monuments historiques. Mais quand je disais armes, effectivement, la protection est une mesure importante, mais on voit en l'occurrence qu'avec l'exemple de la destruction dramatique de la petite chapelle gothique de Courboyer, au manoir de Courboyer, en juin 1946, la protection juridique, malheureusement, n'a pas permis d'empêcher le bras du fermier mal avisé, mais
oui.
surtout mal informé, qui effectivement a procédé à cette destruction. Et c'est là qu'on touche un deuxième point, effectivement, au service de la protection juridique, c'est la notion de diffusion, c'est-à-dire d'information. Mmh. Si on n'informe pas suffisamment, et en l'occurrence, à l'époque, le notaire de Nocé, je ne citerai pas son nom, mais je le connais naturellement, n'avait pas avisé le fermier récemment acquéreur de la mesure de protection qui pesait donc sur le logis manorial et la chapelle de Courboyer. Donc, j'en viens à un autre point qui, à mon avis, est l'implication par l'exemplarité et l'émulation. Et les exemples de manoirs restaurés avec le concours d'érudits, mais je dirais surtout d'amateurs au sens foncier du terme, c'est-à-dire
ouais,
des amoureux,
qui
des passionnés aiment. Du patrimoine, comme, effectivement, on ne va pas les citer, mais disons uniquement, par exemple, déjà Armand Gouillon. Puisqu'il est très lié aux Amis du Perche.
Et qu'il a été le premier
bien,
quand même
voilà.
à restaurer.
Eh bien, on voit que ce sont des exemples qui font tache d'huile. Hein, L'Ange d'Artière, La Vauve, Vaujour, Pont-Girard, etc. sont autant d'exemples qui ont fait que, par des mesures moins directives, moins contraignantes, mais ça, ne les minimise. Hein, mais donc, que cette émulation permet de faire d'autres passionnés qui eux-mêmes conduiront des chantiers, et des chantiers avec l'aide d'artisans éclairés. Et c'est là qu'un organisme comme le Parc Naturel Régional du Perche a son rôle à jouer. Et puis pour terminer, je dirais un autre outil capital, c'est l'éducation. Alors, l'éducation au sens effectivement premier d'éducation des enfants et la sensibilisation au patrimoine dès les plus jeunes années est capitale, et c'est là que les enseignants ont leur rôle à jouer. Mais comme vous le dites, Christiane, l'éducation des adultes, et je pense que l'éducation elle se poursuit tout au long de la vie, et l'éducation elle passe effectivement par un certain nombre d'initiatives comme l'exposition récente sur les manoirs du Perche.
Bien sûr, je glisse
naturellement ma petite carte de visite.
Oui, parce que rappelons que pendant un an, on pourra aller à Courboyer et qu'on aura absolument toutes les informations sur les manoirs.
Voilà, par exemple, mais naturellement des journées comme cette manifestation du 1er octobre prochain, du dimanche 1er octobre prochain, où des publics extrêmement divers, mélangés de tous âges, de toutes origines, pourront rencontrer des artisans, écouter des interventions et même poser les questions qu'ils ont envie de poser.
Eh bien, justement, je reviens à vous, Jean-François Suzanne, les ateliers du bâti, donc ce dimanche 1er octobre de 10h30 à 18h. Racontez-nous, dites-nous le programme. Nous voulons absolument aller assister à cette journée-là.
Alors, avec Vanessa Hu et Elisabeth Gauthier-Desvaux, nous avons voulu permettre à tout public de venir à Courboyer. En fait, faut pas se cacher, les Amis du Perche organisent ici leur journée, balade, visite, etc. Mais c'est en nombre restreint. Alors là, c'est plutôt accueillir un maximum de personnes pour être sensibilité. Alors, il y a un temps qui a lieu durant toute la journée où en fait on peut avoir à la fois la présence d'artisans qui peuvent faire des démonstrations, taille de pierre, la taille du verre, etc., des assemblages, la présence d'artistes aussi pour aménager également son patrimoine, la présence d'architectes, on pense toujours aux architectes, les ABF en fait, les architectes des bâtiments de France qui peuvent être un bon conseil auprès de particuliers, petit patrimoine ou plus grand, puisqu'en fait, toutes les associations avec les institutions de l'État fonctionnent en réseau. Et je pense que c'est ça qui est aussi l'intérêt de cette journée, c'est de pouvoir se renseigner, éviter de faire des erreurs. Je pense que la restauration du patrimoine, ça prend du temps, il faut éviter cette précipitation. Et là, actuellement, même le parc naturel régional du Perche a décidé de rééditer une plaquette
en faveur
des différents matériaux qu'on peut utiliser, qui sont l'essence même du Perche, en fait.
Vous aviez déjà édité quelque chose,
oui,
et ça, c'était très bien, parce que les gens se référaient à cela, à un vrai petit manuel pour bien construire.
Tout à fait. Et là, c'était réédité à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, pour, au contraire, être sensibilisé et prendre le temps, éviter de faire des erreurs.
Donc on peut dire qu'avec cette journée, eh bien, on aura tous les conseils relatifs aux maisons qu'on veut aménager, qu'on veut même construire peut-être. Tout sera possible.
Tout à fait. Surtout en respectant l'environnement. C'est ça aussi qu'il faut voir aujourd'hui. On ne fait plus tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il y avait un autre membre des Amis du Perche, c'était Michel Fleury, qui rouspétait, qui s'opposait à une construction un peu anarchique. Pour lui, il fallait respecter la nature, l'environnement pour pouvoir préserver le Perche dans sa splendeur.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Jean-François Suzanne, président des Amis du Perche de l'Orne, qui va nous présenter les ateliers du bâti. Cette journée aura lieu le dimanche 1er octobre de 10h30 à 18h. Alors, Jean-François Suzanne, dans une première partie, nous avons évoqué les manoirs. J'aimerais bien maintenant qu'on s'en tienne à cette journée. Comment ça va se passer? Racontez-nous.
Avant la pause, on avait évoqué qu'il y avait la présence d'artisans, d'artistes qui vont faire des présentations. On va avoir aussi des architectes pour pouvoir donner des conseils à ceux qui s'intéressent à leur patrimoine privé ou public, collectif,
sûr.
Puisqu'en fait, c'est ouvert à tout le monde. Mais aussi, on aura, avec Vanessa Hu et Elisabeth Gauthier-Dévaux, on avons décidé d'organiser ce qu'on appelle les rencontres autour des patrimoines. Cette première rencontre, elle est surtout axée sur le patrimoine bâti, en fait, avec notamment des conférences le matin et l'après-midi. Alors, par exemple, le matin, on va avoir une conférencière qui va nous évoquer le lien entre architecture rurale et l'architecture contemporaine en tant qu'architecte. Donc là, ça va durer une heure, mais surtout...
Alors, là, l'architecte, il y aura plusieurs architectes.
Il y aura surtout une architecte qui fait en fait une présentation de son travail et qui donne des possibilités aujourd'hui dans notre cadre de vie qui est le Perche, un cadre... qu'on essaye de préserver, comment on peut associer des nouvelles constructions par rapport à l'habitat
au
paysage ou l'habitat ancien. Comment on peut associer sans détruire ou en assemblant, voilà.
Très bien.
Mais qui peut être destructible au cas où. Ouais. L'après-midi, c'est là qu'on a passé plus de temps dans la préparation. On va avoir deux temps. Le premier temps, à 14h30, sous la médiation de Victor Provost. Victor Provost, c'est le maire de Thiron-Gardais.
Oui.
Il est aussi le secrétaire adjoint des Amis du Perche d'Eure-et-Loir. Donc, c'est un membre de l'association. On va s'intéresser aux acteurs et aux leviers d'intervention en faveur du patrimoine.
Exemple.
Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant qu'association? Et alors là, c'est ça qui est intéressant avec Victor. Il met en place, qui habitue actuellement un projet dans sa commune, c'est la restauration de l'église abbatiale de Thiron. En fait, c'est un projet pour sauvegarder l'église abbatiale puisqu'elle est en train de s'affaisser sur un côté, la reconstitution, je pourrais dire, d'un cloître pour pouvoir maintenir, voire redresser l'un des murs de cette église. Et donc là, on voulait voir en tant qu'acteur, celui d'élu, celui de citoyen, comment il a pu mobiliser tous ses concitoyens, les associations locales. Je sais qu'il préside aussi l'ordre de Thiron. Bien, comment il a pu, avec cette petite commune, mobiliser toute la population pour un projet gigantesque, ça coûte quand même 1 200 000 euros.
Ouais.
Et donc là, on voulait avoir son point de vue. On aura aussi le point de vue d'une ABF, l'architecte des bâtiments de France, en la personne d'Anne Chevillon, qui elle va nous donner plutôt des aides juridiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'association? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et donc, elle va nous apporter son point de vue. Je rappelle que l'État est une aide précieuse, soit pour stopper certaines dégradations, soit au contraire pour pouvoir aider à travers la défiscalisation.
Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Vous avez vraiment de bonnes idées parce que c'est souvent ce qui pêche, les gens ne savent pas où s'adresser.
Tout à fait. Et là, ça va être des conseils pour aller de l'avant. Et bien sûr, il y aura à un moment donné, il y aura le débat pour pouvoir s'échanger les uns entre les autres. Mais il manque une intervention, c'est celui de la Fondation du patrimoine qui va venir, elle, apporter des conseils d'aide ou plutôt d'animation. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les aides de l'État sont en diminution. Même les associations nationales telles que la Fondation du patrimoine, la sauvegarde de l'art français ne peuvent plus donner autant comme avant. Mais essayer d'apporter... des conseils pour animer le territoire, essayer de récolter des fonds à droite et à gauche. On sait très bien que les petits ruisseaux font des grandes rivières, mais derrière, quand on voit les projets qui ont été menés pour la restauration de l'abbaye de l'abbaye de Montligion, un grand projet à plus de 5 millions d'euros, on voit qu'il y a des mobilisations de la population et c'est ça l'objectif.
Et ça, c'est très bien parce que quand un maire s'investit, eh bien, tous les gens de la commune sont heureux, travaillent ensemble et ils retrouvent cette joie de vivre. Je l'ai remarqué dans plusieurs villages, quand le maire, par exemple, veut restaurer une église, eh bien, tout le monde s'y met et c'est un grand bonheur pour la commune.
Tout à fait. Qu'il soit civil, qu'il soit religieux ou civil. Et déjà, un autre exemple qui est vraiment frappant, c'est Bellem. Bellem, c'est la municipalité autour de Vincent Segouin et d'Éric Ivard, mais il y a aussi l'association de sauvegarde du patrimoine autour de Joël Lenoir. Vous avez aussi les commerçants, Bellem Boutique, dirigée par Monsieur de Morancé. Et puis, il y avait aussi, et là, c'est vraiment un fait très exceptionnel, la présence de la paroisse avec le père Jacques Roger, qui mobilise tout le monde. Et on voit restauration en cours du porche de Bellem. Pareil, un projet à plus d'un million d'euros. Et puis actuellement, la restauration de l'église Saint-Sauveur, 300 000 euros. Et tout le monde est mobilisé dans le but de préserver ce patrimoine.
Je crois que ça, maintenant, ce sont des initiatives qui sont vraiment un peu partout. On commence vraiment à se rendre compte des bénéfices que l'on peut avoir avec la population pour mieux vivre aussi.
Et c'est ça, parce qu'en fait, on organise des soirées, on se retrouve, on retrouve le sens du collectif et puis du chacun pour soi. Voilà. C'est ce que d'ailleurs souhaitait Thierry Aveline de Rossignol. Aidez-vous les uns avec les autres. Il était le délégué régional de Basse-Normandie à l'époque. Oui. Aujourd'hui, c'est Olivier Grenier qui l'a remplacé.
Des conférences, mais aussi beaucoup d'artisans, d'artistes, de paysagistes.
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, le patrimoine bâti, c'est plus seulement une maison, mais c'est aussi les extérieurs. Comment, on parlait tout à l'heure de l'exposition sur les manoirs, mais Elisabeth Gauthier-Devaux expliquerait mieux que moi, mais le manoir, c'est pas seulement le logis, il y a aussi les jardins qui vont à côté, la rivière qui passe dans son environnement, vous avez aussi les points d'eau, etc. Donc, on veut aujourd'hui que ça soit harmonieux.
Voilà, ça c'est très bien.
L'intégration des différents paysages, les arbres, les pommiers, les poiriers, etc. Dans le passé, c'était logique au temps du 16e siècle, 17e siècle, etc. Et le 20e siècle, dans un sens, ça a été un peu destructeur de ce côté-là. Retrouver un peu nos origines. Et c'est pour ça qu'on fait au parc naturel du Perche, puisque c'est le lieu par excellence où en fait on associe toutes ces formes de patrimoine.
Bien sûr. Donc, il va y avoir beaucoup d'artisans. Peut-être pouvez-vous nous citer ceux qui viendront nous parler de leurs travaux.
Tout à fait. Par exemple, pour les tailleurs de pierre comme Marino Manca, François Champy. D'ailleurs, François Champy fera un atelier sur la taille de pierre. Vous aurez aussi des maçons, des couvreurs, des charpentiers comme M. Jean Chaboche, des forgerons.
Oui, c'est lui qui a restauré ce qu'on appelle le couvent de Nazareth à Nogent-le-Rotrou.
D'accord.
Et c'est une très belle restauration.
Vous aurez aussi des forgerons, Éric Dervillet, David Houvet, des serruriers, métalliers, parce qu'on pense peu, mais qu'on voit les belles les manoirs, vous avez ces belles portes qui sont travaillées avec les serrures, etc. C'est vraiment de l'œuvre d'art, en fait. Des coloristes, martyristes comme Brigitte Guilbon, des vitraillistes comme Virginie Berthier, restauratrice de tableaux, paysagistes comme Claire Sticande qui habite sur Verrières. Vous aurez aussi donc une architecte, Ariane de Montbrisson, qu'on parlait tout à l'heure pour la conférence du matin. Et puis bien sûr des photographes, puisque eux nous gardent des traces aujourd'hui de cette histoire qu'on retrouvera peut-être dans 10, 20, 30 ans, que sais-je, avec
donc
David Comanchal.
Donc tous ces artisans seront dans le périmètre. Comment ça va se passer?
Oui, alors ça va se passer en fait essentiellement dans les anciens communs de Courboyer, en fait, dans les différentes salles, accessibles à tout le monde, gratuitement, librement.
Oui, avec donc des essais pour voir comment ils travaillent.
Peut-être surtout en extérieur pour la taille de pierre.
Oui, bien sûr.
Mais sinon, les autres artistes seront à l'intérieur. On aura aussi des personnes qui seront en extérieur. N'oublions pas non plus, c'est toutes ces associations que j'évoquais tout à l'heure qui seront présentes d'envergure nationale, la sauvegarde de l'art français. Je sais que vous, Christiane, vous représentez le département aurélien, mais vous serez aussi avec Béatrice de Villene pour le département de l'Orne. Vous avez aussi des associations plus locales comme Bretoncelles Patrimoine Nature présidée par Daniel Chevet. On parlait tout à l'heure aussi de la Fondation du Patrimoine. Il y a aussi les Maisons Paysannes de l'Orne.
Les Maisons Paysannes de l'Orne, Expliquez-nous un petit peu, parce qu'on connaît mal.
C'est une association qui soutient la restauration du patrimoine local. Oui. C'est une association nationale, mmh, avec des succursales, on va dire, ou des associations régionales ou départementales, comme ici, et qui a pour but d'aider également les propriétaires, pas forcément que des fermes, hein, des longères, mmh, mais aussi des manoirs, pour garder, sauvegarder ce type de patrimoine. Et chaque année, des prix sont remis à des propriétaires pour leurs travaux effectués durant l'année ou l'année précédente.
Oui. Et est-ce qu'il y aura aussi des gens qui s'occupent de l'énergie ? Parce que mettre le chauffage central dans un manoir, c'est pas aussi évident que cela. Je sais qu'il y a dans certains manoirs des plafonds qui ont été dans lesquels on a pu mettre tout ce qui concernait le chauffage pour qu'il n'y ait pas de tuyaux apparents. Alors ça, je crois que c'est très important. Est-ce qu'il y aura ce genre aussi ?
Aujourd'hui, on est parti plutôt sur les nouvelles énergies ou plutôt sur l'isolation. Je pense à l'association, oui, c'est Ecopertica,
oui,
qui œuvre avec des matériaux naturels comme le chanvre, comme la laine, etc. Comment peut-on isoler pour compenser,
oui,
la perte de chaleur et surtout pour éviter d'utiliser, comme vous parlez tout de suite, du chauffage central. Honnêtement, c'était pas fait pour les manoirs.
Non.
Et physiquement, c'est-à-dire cette différence de température font que les murs travaillent,
oui,
donc on trouve d'autres solutions. Nous avoir bien sûr des espaces info-énergie de l'Orne, de l'Eure-et-Loir, entre autres. Et puis bien sûr, il y aura les jeunes qui pourront être intéressés, puisqu'il y a des animations pour les enfants qui souhaitent venir, des maquillages, des déguisements, comme au temps des manoirs.
Oui.
Et il y aura aussi un spectacle le samedi soir, et aussi un spectacle durant la journée qui aura lieu, qui évoquera, on parlait tout à l'heure, la destruction de la chapelle du manoir de Courboyer, mais qui évoquera cette chapelle Notre-Dame-de-Pitié que les jeunes pourront, ou moins jeunes, pourront découvrir à travers la recherche de documents.
Ah oui, ça c'est une très, très bonne idée. C'est un spectacle qui sera présenté par quelle association ?
L'association, la compagnie L'Oreille à Plumes, qui vient de Caen.
Oui, je sais qu'il y aura aussi une balade.
Oui, tout à fait, une balade comptée avec Céline Cardo, qui dirige la compagnie Le Manoir aux Histoires, et qui nous racontera des légendes, des contes du Perche, comme elle le fait si bien sur un petit DVD CD-ROM,
oui,
ou alors dans Pays du Perche, à chaque numéro semestriel, où on a le droit à quelques contes percherons.
Donc, ça va être quand même une exposition de grande ampleur.
Oui, une grande manifestation. En sachant qu'on a oublié d'évoquer tout à l'heure aussi, c'est l'exposition d'Elisabeth Gauthier-Dévaux. Donc,
alors, cette exposition, redites-nous quelques
mots. C'est le Perche, Terre de Manoir. C'est un travail de plusieurs années, puisqu'en fait, ça a commencé en 1973. C'est sa fameuse thèse qu'elle,
oui,
a effectuée à l'École des Chartes, et qui relate la vie des manoirs. Aujourd'hui, qu'en est-il? Quelles sont les différentes formes de manoirs, paysages, etc.?
Alors moi, je vous pose une question toute pratique. Si on veut passer la journée, est-ce qu'on peut se restaurer ?
Tout à fait. À la fois, nous aurons le manoir gourmand, donc l'espace qui se situe dans les communs de Courboyer, qui sera accessible. Et puis, on aura aussi la ferme de la Jeveuse qui va vous proposer des croque-monsieur, entre guillemets, donc des sandwichs pour pouvoir se restaurer le midi.
Alors maintenant j'en reviens donc au manoir gourmand. Est-ce qu'on peut être très nombreux dans ce restaurant ?
On peut manger à 75 personnes, 100 personnes environ,
oui,
c'est en accès libre, on choisit des petits menus, voilà.
Donc je dis à nos auditeurs, rendez-vous le dimanche 1er octobre de 10h30 à 18h au manoir de Courboyer. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr.
Merci Christiane Blanc.
Merci Jean.